Merci d'écouter RFI, les 5h, ici à Paris, 6h, au Caire.
Martin Guèze.
Et après l'échec de la flottille de la Liberté, des milliers de personnes s'apprêtent à marcher vers Gaza. Des marcheurs internationaux venus d'une quarantaine de pays et réunis au Caire. Problème, les manifestations sont interdites depuis plus de 10 ans en Égypte et certains militants ont déjà été interpellés. Gaza, où 31 Palestiniens sont morts hier lors d'une nouvelle distribution de la GHF. L'armée israélienne a encore ouvert le feu. L'État hébreu annonce de son côté le rapatriement de 2 dépouilles d'otages détenus à Gaza depuis le 7 octobre 2023. À Los Angeles, nouvelle nuit, sous couvre-feu, la ville californienne vit au rythme des manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump. Le président a déployé la garde nationale et les marines pour y faire face. Enfin, un grand plan santé mentale en France pour lutter contre le mal-être de la jeunesse. Plus d'un jeune adulte sur 2 déclarait avoir été confronté à des problèmes de santé mentale l'an dernier. Une nouvelle distribution qui vire au bain de sang à Gaza. Au moins 31 personnes venues récupérer de l'aide alimentaire sont mortes. C'est ce qu'annonce la défense civile, l'armée israélienne qui a encore ouvert le feu lors d'une distribution de la GHF, la Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par Washington, qui annonce que 5 de ses membres ont été tués cette nuit lors d'une attaque du Hamas. Gaza ravagée par vent mode guerre et la planète se mobilise après des manifs d'ampleur à Rome et à Paris ces derniers jours. Une marche mondiale doit partir d'Égypte. Des milliers de volontaires venus d'une quarantaine de pays sont attendus. Certains sont déjà arrivés, comme Samuel Gretenan, militant suisse et coordinateur de l'initiative. Son but, marcher vers Gaza et faire pression sur Israël. Mais toute manifestation est interdite en Égypte depuis plus de 10 ans. Notre correspondant Martin Dumas-Primbault l'a rencontré au Caire.
Dès mardi soir, quelques-uns des premiers militants arrivés par avion ont été interpellés à l'hôtel ou à l'aéroport par la police égyptienne.
Toutes les personnes qui ont été interrogées sont libres en fait. On n'est pas là pour cibler le gouvernement égyptien. On est très conscients, les organisateurs de ce rassemblement, que c'est un génocide occidental. Donc nous, notre but, c'est de faire pression sur nos pays respectifs.
Pour le militant suisse, la sécurité des participants est une priorité. Il en appelle à la collaboration des autorités locales.
Et on appelle les autorités égyptiennes à nous tendre la main pour pouvoir mettre en place cette sécurité. C'est qu'on n'a pas de feu vert, mais on n'a pas de feu rouge. Donc le mouvement est en place. Les gens viennent de tous les pays du monde maintenant. Et tant que on n'a pas un blocage strict des autorités égyptiennes, on continue notre planning de partir en bus et de rentrer dans le Sinaï.
Dans un communiqué publié mercredi soir, le ministère égyptien des Affaires étrangères conditionne tout accès à la frontière avec Gaza à l'octroi d'une autorisation préalable, sans donner plus de détails. Martin Dumas-Primbault, Le Caire, RFI.
Eux ont tenté de percer le blocus israélien. En vain, les 4 derniers Français qui avaient embarqué à bord du navire humanitaire la Madeleine vont être expulsés d'Israël dans les prochaines heures. Parmi eux, l'eurodéputée insoumise Rima Hassan, brièvement placée à l'isolement selon une ONG. Il devrait être de retour en France ce jeudi soir. Israël toujours, où les autorités ont annoncé le retour des dépouilles de 2 otages de Gaza, dont celle de Yair Yaakov, enlevé et tué le 7 octobre 2023. Et puis Israël enfin, où le gouvernement de Benjamin Netanyahou a retenu son souffle, suspendu au projet de dissolution présenté par l'opposition à la Knesset, le Parlement qui pouvait faire voler en éclats la coalition du Premier ministre et ouvrir la voie à des élections anticipées. Mais la Knesset vient finalement de rejeter ce projet de loi à une courte majorité. Direction le Liban, à présent, où l'ancien ministre de l'économie, Amin Salam, en poste de 2021 à 2025, a été arrêté à l'issue d'une enquête de plusieurs semaines. Il est visé pour falsification, détournement de fonds publics et chantage auprès des compagnies d'assurance. Explication depuis Beyrouth de Paul Ralifé.
Amin Salam a occupé le poste de ministre de l'économie entre 2021 et 2025 dans le gouvernement de Najib Miati. C'est le premier responsable politique de cette importance à être arrêté depuis le début, en 2019, de la crise économique qui secoue le Liban, un pays miné par une corruption endémique. Une information judiciaire avait été ouverte contre Amin Salam il y a 2 mois à la demande de la Commission parlementaire de l'économie. Les députés lui reprochent d'avoir conclu des contrats avec des entreprises étrangères pour des montants exorbitants en comparaison avec les services rendus. Il est également accusé d'avoir utilisé à des fins personnelles des fonds de la caisse de cotisation des sociétés d'assurance placés sous la tutelle de son ministère. 3 autres personnes, dont le frère de l'ex-ministre Karim Salam, sont poursuivies dans le cadre de cette affaire qui porte sur des centaines de milliers de dollars. La mise en accusation puis l'arrestation d'Amin Salam est la première action prise au Liban depuis l'entrée en fonction en février dernier du gouvernement de Nawaf Salam, qui s'est engagé à adopter des réformes structurelles et à lutter contre la corruption. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
RFI, il est 20h05 à Los Angeles où le couvre-feu vient d'entrer en vigueur. Il doit durer jusqu'à 6h du matin, hors local. Et ce pour le deuxième jour de suite, mesure prise par la maire démocrate de la ville, Karen Bass. La ville californienne épicentre des manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump depuis près d'une semaine. Pour y répondre, le président républicain a décidé de déployer 700 marines et 4000 membres de la garde nationale. Jamais la loi de la rue ne régnera en Amérique, a assuré le chef de l'État américain. Les démocrates dénoncent un abus de pouvoir. Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, a lui défendu la position de Donald Trump devant le Sénat.
Every authorization we've provided the National Guard.
Toutes les autorisations données par le président des États-Unis à la garde nationale et aux Marines à Los Angeles sont légales et constitutionnelles. L'enjeu, c'est de faire respecter la loi et de permettre aux forces de l'ordre de faire leur métier sans être attaquées par des hordes de gens. Donc nous sommes très fiers que la garde nationale et les Marines se soient dans les rues pour protéger les agents des services migratoires.
Et à noter hier soir une vingtaine d'arrestations à Los Angeles, des manifestations qui font tache d'huile. D'autres rassemblements ont eu lieu à New York, à Seattle ou encore à Las Vegas. Au Nigeria, le mouvement Take It Back se mobilise partout dans le pays ce jeudi 12 juin pour protester contre les difficultés économiques et sécuritaires. Une date qui n'a pas été choisie au hasard. Le 12 juin est symbolique au Nigeria, date à laquelle en 1993, Moshood Abiola remportait largement la présidentielle avant d'être emprisonné et de voir son élection annulée. Moshood Abiola, mentor de l'actuel président Bola Tinubu, qui doit faire face à une nouvelle levée de bouclier face à ses réformes libérales, correspondance de Moïse Gomis.
Alors que les manifestations de l'été dernier n'avaient pas de leader, Juwon Sanyaolu assume. Il est le visage et la voix de Take It Back Movement, ce mouvement de contestation ayant choisi ce 12 juin pour lancer un défi au président Bola Ahmed Tinubu. Juwon Sanyaolu exhorte les Nigérians à sortir en masse pour, je cite, reconquérir l'âme du pays et demander des comptes à ceux qui sont au pouvoir, fin de citation. Des métropoles comme Lagos, Benin City au sud, mais aussi Maïdougouri, Yola au nord devraient voir converger des cortèges du mouvement signifiant en français reprendre en main. À Abuja, la capitale fédérale, les manifestants devraient se retrouver aux abords d'Eagle Square, l'esplanade où tous les présidents élus prêtent serment le jour de leur investiture. Si la parade prévue sur ce lieu chaque 12 juin n'aura pas lieu cette année, en revanche, le président Bola Ahmed Tinubu prononcera bien son discours à la nation, avant de rejoindre un peu plus tard dans la matinée une session conjointe au Sénat et à la Chambre des représentants. Puis en fin d'après-midi, le chef d'État devrait assister à une conférence intitulée « Consolider les acquis de la démocratie nigériane, nécessité de réformes durables ». Moïse Gomis, Abuja, RFI.
Et on termine ce journal en France où le drame de Nogent secoue toute la société. Une surveillante d'un collège de cette ville de l'Est du pays a été tuée ce mardi par un adolescent de 14 ans. Ce qui relance le débat sur la santé mentale des jeunes dans le pays. Elle est particulièrement préoccupante. 55% des 18-24 ans ont déjà été affectés par un problème de santé mentale l'an dernier, selon une enquête Odoxa. Face à cela, le ministre français de la Santé, Yannick Neuder, a présenté un plan de santé mentale déclaré grande cause nationale. Une des mesures phares concerne justement l'école et la formation des personnels. Mesure à peine annoncée, mais déjà décriée, Laurence Théo.
Des référents en santé mentale dans les établissements scolaires pour repérer les fragilités des élèves afin de mieux les soigner. L'objectif est de former 100% des personnels en leur distribuant un kit pédagogique. Une aberration pour Safia Guérichi, secrétaire nationale du syndicat des infirmières de l'éducation. Elle explique que cette spécialisation en psychiatrie revient aux infirmières scolaires puisqu'elles sont en première ligne.
C'est-à-dire de mettre en face de ces jeunes avec les enjeux de santé qui sont immenses, mais tant psychiques que physiques, de mettre un professionnel formé, motivé, reconnu, qui sait ce qu'il fait et qui sait comment faire et dont les pratiques professionnelles sont avérées. Les kits pédagogiques en ligne ou diffusés dans des réunions par des pairs, ça ne permet pas d'avoir cette qualité de service rendu.
Le syndicat précise qu'il manque plus de 15 000 postes d'infirmières scolaires en France pour couvrir les besoins des élèves en collège et lycée.
Laurence Théo a noté qu'en France, environ un tiers des postes de praticiens hospitaliers en psychiatrie sont vacants, tandis que le nombre de patients a doublé ces 20 dernières années. Et puis enfin, tout va bien dans les bassins. Pour la Canadienne Summer McIntosh, à 18 ans, elle a encore battu son propre record du monde du 400 mètres 4 nages. La triple championne olympique à Paris l'a améliorée de 73 centièmes aux championnats nationaux de Victoria RFI. 5h10, ici à Paris, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Grand Reportage. Excellente journée à notre écoute.